Bonjour, nous sommes Valentine Anquier, Julien Blondeau et Arthur Bonnard-Cellier. Nous faisons partie de l'atelier Sciences Po. Dans le cadre de cet atelier et de sa venue pour une conférence sur l'élaboration de la loi et l'équilibre des pouvoirs au Parlement, Karine Soulet est notre invitée aujourd'hui. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous avez occupé différents postes, dont conseillère d'État, et vous êtes maintenant coach professionnelle indépendante. Nous reviendrons bien évidemment sur votre nouvelle vie. Nous aborderons également vos liens avec la vie politique et vos attaches avec le lycée Raoul Follereau. Mais juste avant, pour commencer, nous allons évoquer votre cursus. Quel parcours scolaire avez-vous suivi et quelles ont été vos études ?
Déjà, merci beaucoup de me recevoir et je suis ravie d'échanger avec vous. Alors, le parcours scolaire, moi j'ai fait mon collège et mon lycée, j'ai passé mon bac en 1989. Oui, c'était au siècle dernier. Et ensuite, je suis rentrée à Sciences Po Paris, où j'ai étudié pendant 3 ans, puisqu'à l'époque, c'était 3 ans d'études à Sciences Po. Et puis ensuite, j'ai passé différents concours pour rentrer dans la fonction publique, devenir fonctionnaire. Je suis devenue fonctionnaire à la ville de Paris et j'ai commencé mon parcours professionnel à la ville de Paris.
Vous êtes devenue conseillère d'État. Qu'est-ce que le métier de conseillère d'État ?
Alors, je suis en effet devenue conseillère d'État, membre du Conseil d'État, en 2003, 10 ans après avoir commencé à travailler et après 2 ans d'études à ce qui s'appelait à l'époque l'École nationale d'administration, ce qui aujourd'hui s'appelle l'Institut national du service public. Alors, le métier de conseiller d'État, c'est plusieurs choses. C'est un métier juridique, déjà. Et dans ce métier juridique, la première fonction d'un membre du Conseil d'État, c'est de juger les litiges, les contentieux qui vont opposer une administration, quelle qu'elle soit, ça peut être une commune, ça peut être l'État, à un particulier ou une entreprise. Donc, quand on est conseiller d'État, on est d'abord juge. Et puis, on peut aussi être le conseiller juridique du gouvernement sur les projets de loi, les principaux projets de décret, et on peut aussi, depuis quelques années, être le conseiller juridique du Parlement, si un parlementaire nous demande ce conseil juridique. Et le dernier rôle du Conseil d'État, c'est un rôle d'étude sur des grandes évolutions de la société. Par exemple, dans les rapports récents qui ont été rendus par le Conseil d'État, il y a un rapport sur la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté en France ? Il y a un rapport qui a été très commenté sur ce qui s'appelle le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, ça veut dire quoi ? Quand une décision politique est prise, comment elle s'applique concrètement sur le terrain. Voilà le genre d'études que peut rédiger le Conseil d'État.
Et est-ce qu'un conseiller d'État peut se spécialiser dans un certain domaine particulier ?
Oui, alors c'est effectivement le cas. On peut se spécialiser, que ce soit en tant que juge ou en tant que conseiller juridique dans certains domaines. Moi, ça a été le cas à différents moments. Par exemple, on peut faire du droit fiscal pour conseiller le gouvernement sur, on va dire, la régularité juridique de certains impôts, de certaines mesures. On peut se spécialiser dans le droit qui concerne l'éducation nationale, ça a été mon cas. En fait, on peut se spécialiser à un moment donné et passer quelques années sur un domaine juridique. Et puis, si on veut changer, on peut le faire à tout moment. Et c'est ça l'intérêt aussi de ce métier, c'est que ça permet d'avoir en réalité des métiers différents, celui de juge, de conseiller juridique ou de rapporteur en études, et aussi sur des domaines juridiques très différents les uns des autres.
Et en tant que conseillère d'État, quelle est votre journée type ?
La journée type d'un conseiller d'État. Alors je vais prendre l'exemple du rôle de juge. Par exemple, quand on arrive le matin, on regarde un dossier juridique avec une demande, ce qu'on a le requérant qui nous demande quelque chose au juge, je ne sais pas, on va dire d'annuler un décret, par exemple. On va voir les arguments juridiques qui sont évoqués pour justifier l'annulation du décret. On va regarder en défense ce que nous dit le ministère concerné pour ne pas annuler le décret. Donc on va analyser l'affaire, donc on va faire des recherches juridiques, on va proposer une solution juridique. Ça, c'est un travail beaucoup sur dossier et aussi de dialogue entre plusieurs conseillers d'État sur une même affaire, parce que l'idée, C'est comme vous quand vous débattez en classe, c'est d'échanger les points de vue. Et par exemple, l'après-midi, sur d'autres affaires, on est réunis dans ce qu'on appelle une audience. Et là, on regarde d'autres affaires juridiques. Il y a là aussi exposé dans une audience pour les affaires les plus importantes le rôle du requérant, le rôle de la défense. Et puis ça, ça a lieu publiquement. Et ensuite, on ferme les portes de l'audience et a lieu ce qu'on appelle le délibéré. Et le délibéré, c'est juste entre les juges. C'est pas ouvert au public. Et là, on examine les différents arguments et on choisit la solution juridique qui nous paraît la plus adaptée. Autrement dit, si je reprends l'exemple de ma requête sur le décret, est-ce qu'on trouve que les arguments en faveur de l'annulation du décret sont justifiés? Et dans ce cas-là, on rédige une décision juridique pour annuler le décret? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a aucun argument qui nous semble justifier l'annulation? Et dans ce cas-là, on répond argument par argument, alors ça s'appelle des moyens en droit, mais moyen par moyen, on doit vraiment toujours motiver pourquoi on annule ou au contraire, pourquoi on rejette la demande d'annulation.
Et en tant que conseillère d'État, quels sont vos devoirs et vos obligations dans ce métier?
Alors, il y a des devoirs qui sont généraux pour tous les fonctionnaires et il y a des devoirs qui sont propres au fait d'être membre d'une juridiction, donc d'être juge. Les devoirs généraux, on a un devoir de réserve, on ne peut pas s'exprimer publiquement sur, je ne sais pas, nous, par exemple, nos convictions politiques, nos opinions, voilà. On ne doit pas non plus s'exprimer sur les affaires que l'on traite, sauf entre nous, entre juges. On a également le devoir d'impartialité et de neutralité. On doit traiter absolument toutes les demandes de la même façon. Et il y a des devoirs, alors c'est compliqué de les qualifier de devoirs, mais il y a une façon de fonctionner quand on est juge, qui est qu'en général, très largement, on travaille en ce qu'on appelle en collégialité. La collégialité, c'est que on ne rend pas une décision tout seul. On est vraiment toujours plusieurs à discuter entre nous, parce qu'à plusieurs, on a des points de vue différents, et du coup, on arrive à adopter le jugement, adopter la décision qui est la plus équilibrée possible. Voilà pour... Je ne vais pas détailler tous les devoirs, mais c'est les principaux qui me viennent à l'esprit.
D'accord. Et comment avez-vous géré le métier entre vie personnelle et vie professionnelle, puisque je pense qu'être conseiller d'État doit prendre beaucoup de votre temps?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui prennent beaucoup de temps. Je pense que les personnes qui travaillent dans ce lycée, que ce soit dans les équipes administratives, les profs, passent beaucoup de temps aussi dans leur métier. Après, si c'est un métier passion, c'est génial. Moi, c'est le cas, enfin, ça a été le cas, parce que maintenant, je fais un peu autre chose, mais pendant les 30 années que j'ai passées dans l'administration, comme au Conseil d'État ou ailleurs. Donc ça prend effectivement beaucoup de temps. Après, je trouve que pour être bien dans son boulot, et je ne sais pas, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue, vous, en tant que lycéen, pour bien travailler, c'est important d'avoir un équilibre à côté, et de faire des activités à côté, je ne sais pas moi, du sport, de la danse, du chant. Moi, j'aime beaucoup la musique, donc j'ai besoin de faire de la musique à côté, d'avoir des amis, d'avoir des liens avec sa famille, de ne pas faire que travailler. Du coup, c'est pas toujours facile à trouver cet équilibre-là, parce qu'effectivement, on passe beaucoup de temps à travailler, surtout quand c'est un travail qu'on aime faire. Mais l'idée, c'est d'arriver à trouver cet équilibre et je pense que les uns les autres, on y arrive plutôt bien.
Et est-ce que le fait d'être une femme a eu un impact dans votre carrière politique?
Alors, juste une précision, moi j'ai une carrière qui n'est pas politique au sens où je n'ai pas exercé et je n'exerce pas de mandat politique au sens où je ne suis pas maire, je ne suis pas conseiller municipal ou conseiller départemental. J'ai travaillé en proximité et au service avec des hommes et des femmes politiques en tant que fonctionnaire lorsque j'ai travaillé dans les ministères. Mais du coup, je n'ai pas de carrière politique. Le fait d'être une femme, à mon sens, fait que, en tout cas, la façon dont je l'ai vécu, fait que j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse davantage mes preuves dans les différents métiers que j'ai exercés pour être reconnue comme étant légitime dans chacune des fonctions que j'ai exercées. Qu'il fallait peut-être que je travaille un peu plus ou qu'il fallait peut-être que j'arrive à de meilleurs résultats. Voilà. Peut-être, enfin, même certainement, j'ai souvent eu ce sentiment-là. J'ai la sensation aussi qu'aujourd'hui, les choses évoluent parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans les postes à responsabilité, même si ça n'est jamais complètement gagné. Et que, pour moi, l'égalité femmes-hommes dans les relations professionnelles, c'est vrai aussi dans le secteur privé. Ça veut dire que certes, il faut que les femmes occupent la place qu'elles souhaitent occuper dans ce monde professionnel, tout en faisant en sorte qu'on travaille très bien ensemble, hommes et femmes, parce que, comme je le disais tout à l'heure à propos de la collégialité, ce qui est important, c'est de travailler collectivement et de partager des points de vue qui sont différents. Et c'est grâce au partage de ces points de vue différents qu'on arrive à prendre de bonnes décisions et à progresser. Donc voilà, j'ai élargi peut-être un peu le champ de la question, mais ça me semblait important de le préciser.
On rappelle que vous allez présenter une conférence dans quelques instants pour des élèves de l'atelier Sciences Po. Quels conseils pourriez-vous donner à des élèves qui veulent intégrer des grandes écoles comme Sciences Po par exemple ?
Alors, quels conseils je pourrais leur donner ? Ben, c'est peut-être un partage d'expériences et de conseils que j'ai moi-même reçus, à la fois par mes profs, parce que j'ai eu la chance d'avoir des super profs en lycée qui étaient très soutenants, pas vis-à-vis de moi seulement, mais par rapport à tous mes petits camarades de classe. Je pense d'abord qu'il faut être persévérant, même quand parfois on se trompe ou parfois on a un doute, bah il faut continuer à essayer parce que la persévérance fait que quelque chose qui demande un effort important au début va demander un effort un peu moins important quand on répète le fait de s'exprimer comme ce que vous faites aujourd'hui au micro. Voilà, au fur et à mesure, vous allez trouver un confort là-dedans et donc ce confort-là, il se voit aussi sur le résultat, à la fois des copies que vous écrivez ou de l'expression orale quand vous passez un entretien. Donc la persévérance, le travail, certes, le fait de travailler un peu toutes les matières et puis d'y prendre du plaisir, l'équilibre, ce que vous disiez tout à l'heure, ne pas faire que travailler, parce qu'en réalité, notamment quand on veut rentrer dans une école, quelle qu'elle soit, même si elle est spécialisée sur un domaine, je pense qu'un candidat qui va avoir beaucoup de centres d'intérêt, y compris qui peuvent paraître du loisir, mais par exemple le sport ou par exemple la musique, va être capable de mettre dans son travail un certain nombre de références ou de l'énergie qui correspond à ces activités-là. Et qu'en réalité, quand on recrute un étudiant, ou même dans le monde du travail, quand on recrute un collègue, on le recrute pour l'être humain qu'il est, en fait. Et pas seulement pour la compétence, même si la compétence est importante, mais on le recrute parce qu'on se dit, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Pas forcément avec ce spécialiste, je ne sais pas moi, du droit ou de l'économie que cette personne représente. Donc voilà, si je résume, de la persévérance, du travail, de l'équilibre pro-perso, du plaisir. De prendre du plaisir dans ce qu'on fait, ça aide.
Quels sont vos liens avec le lycée Raoul Folraud ?
Alors, le lien que j'ai avec le lycée Raoul Folraud, à l'origine, il tient en une personne, qui est une amie d'enfance, de lycée en l'occurrence, qui est professeure de mathématiques au lycée Raoul Folraud, Anne-Sophie Hautesser. Nous avons gardé depuis cette époque-là des liens assez proches, y compris dans ses anciens postes de professeur. Et voilà, il se trouve que quand elle est arrivée à Raoul Folraud, au bout de quelques années, elle m'a dit qu'un atelier Sciences Po était en train d'être créé dans le lycée Raoul Folraud. Je crois que c'était dans les années 2012-2013, si j'ai bonne mémoire, par une équipe de profs assez dynamique, avec notamment, qui est toujours là, avec sa figure très soutenante, Dominique Crescenzo, qui est professeur d'économie. Et voilà, et du coup, à l'époque, pour entrer à Sciences Po, Il y avait un processus en deux temps. Il y avait d'abord une phase de sélection de candidats dans un certain nombre de lycées qui se faisait au niveau du lycée lui-même, à partir d'un oral des élèves de terminale sur la base d'un sujet qu'ils avaient choisi. Et puis ensuite, les élèves qui étaient sélectionnés par ce petit jury interne au lycée passaient un entretien à Sciences Po. Et il se trouve que du coup, j'ai participé à ces jurys pendant plusieurs années avec le proviseur, avec un certain nombre de professeurs. Voilà. Et que, au fur et à mesure du temps, au-delà de participer à ces jurys, j'ai aussi essayé d'organiser des débats avec les élèves sur des sujets comme les affaires européennes, l'engagement dans le service public, ce qu'on va voir par exemple tout à l'heure, le rôle du Parlement dans une démocratie, tout en liant ça à des sujets d'actualité, parce que c'est ce qui intéresse aussi les élèves qui sont dans l'atelier Sciences Po.
On rappelle que vous allez faire une conférence du coup sur l'élaboration des lois et l'équilibre du pouvoir au Parlement. Pourquoi est-il important d'enseigner aux élèves le rôle du Parlement ?
Alors, c'est un sujet qu'on a choisi en commun, l'atelier Sciences Po et moi. Déjà, peut-être pour remettre en perspective, je fais cette intervention dans le cadre d'une association à laquelle je participe depuis maintenant à peu près un an et qui existe depuis 4 ans, on va dire, qui s'appelle Parlons Démocratie et qui a pour but de faire intervenir des praticiens de l'administration, de la justice, qui sont encore dans le monde professionnel ou qui sont retraités. Et donc ces praticiens viennent partager leur expérience très concrète avec des collégiens, des lycéens, leurs profs. Donc voilà, je fais cette intervention dans le cadre de cette association Parlons Démocratie, et ça me semble avoir particulièrement du sens d'intervenir sur le rôle du Parlement, parce que c'est un fondamental de l'état de droit. C'est un fondamental de nos démocraties. On a parfois tendance à l'oublier, voire parfois on ne l'a pas toujours abordé, on n'a pas toujours eu l'opportunité de l'aborder, mais la démocratie, elle repose sur un certain nombre de principes, dont la séparation des pouvoirs, l'exécutif, législatif, judiciaire, et le législatif, c'est le Parlement qui est en charge de ce pouvoir. Donc l'idée d'intervenir sur ce sujet, c'est de voir l'importance du Parlement dans nos démocraties, et notamment en France, dans les institutions de la Ve République, et de le voir sous un angle très pratique, puisque, à la demande aussi de l'atelier Sciences Po, je vais me servir de l'actualité récente sur le projet de loi de finances, et désormais la loi de finances pour 2025, pour illustrer les processus démocratiques à l'œuvre, que ce soit la mise en jeu de la responsabilité d'un gouvernement devant l'Assemblée nationale, la motion de censure, la façon dont on crée la loi, qui la crée, pour quelles raisons, et comment le Parlement peut contrôler aussi l'action du gouvernement. Donc, quel est l'équilibre entre les différents pouvoirs ? On va surtout parler des pouvoirs exécutifs et législatifs cet après-midi.
Comment on vulgarise aussi un sujet aussi complexe que celui-là ?
Alors, je trouve que c'est justement un des intérêts, au-delà du fait de partager l'expérience, et je pense qu'un premier élément pour vulgariser, c'est déjà de parler en termes très simples de ces choses-là, parce que même si tout ce fonctionnement repose sur des règles juridiques qui sont parfois rédigées de façon complexe, on peut tout à fait expliciter le contenu de ces règles de façon beaucoup plus simple, et surtout on peut l'expliciter en prenant des exemples concrets, et on est d'autant plus convaincant pour expliquer qu'on a vécu des situations de ce genre. Alors moi, je ne l'ai pas vécu comme autorité politique dans un cabinet ministériel ou en tant que ministre, non, mais le fait d'avoir été aux côtés de cabinets ou de ministres lors de débats au Parlement, ça permet de voir très concrètement de l'intérieur comment ça marche, et peut-être donc au-delà des grands principes, de donner des petites anecdotes qui rendent la chose plus vivante, et surtout qui rendent ces institutions qui peuvent paraître souvent comme très lointaines, très impressionnantes, de les rendre en réalité beaucoup plus proches de nous qu'elles n'en ont l'air, parce qu'en réalité, et c'est aussi un des aspects fondamentaux dans le Parlement, nos représentants qui façonnent la loi et qui l'adoptent, ce sont nos représentants. Et donc nos représentants, on doit en être proche, en tout cas on doit voir quelle proximité on a avec ces représentants qui sont des députés et des sénateurs.
Quel impact le Parlement a-t-il dans nos vies du coup ?
Le Parlement, il a beaucoup d'impact dans nos vies. Alors, en fait, justement, ce que fait le Parlement, c'est qu'il va façonner, il va fabriquer, comme un peu un artisan, la loi. Il va la voter. Et donc, la façonner, ça veut dire soit proposer ce qu'on appelle une proposition de loi sur un sujet que n'a pas proposé le gouvernement, soit travailler sur un projet proposé par le gouvernement et... du coup, retrancher des choses, ajouter des choses. Donc c'est vraiment une fabrique de la loi qui se fait, on va le voir, dans un certain nombre d'enceintes au sein du Parlement. Et le Parlement, en fait, il va faire des lois sur les sujets les plus importants dans notre démocratie, sur les droits fondamentaux. C'est le Parlement, c'est la loi qui s'exprime. Alors au-dessus... il y a aussi des grands textes qui sont, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme. Au-dessus, encore, il y a la Constitution, qui est le texte fondamental dans notre ordre juridique. Mais la loi, elle est là, juste sous la Constitution et les grands textes internationaux. Elle est là pour définir les grands principes, les grands droits fondamentaux dont on dispose en tant que citoyen. Pour aussi, justement, voter le budget. Voter le budget, c'est les dépenses. Où est-ce que l'État va dépenser de l'argent ? Et surtout, le droit pour l'État de récolter l'impôt. Parce que l'impôt, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de donner tout de suite. Mais ça veut dire que si on ne verse pas l'impôt, l'État a le droit de le prélever. Donc ça, c'est vraiment très important que ce soit le législateur qui le fasse. Et puis, ensuite, l'exécutif met en œuvre la loi, notamment avec des décrets, des arrêtés, etc., etc.
Et du coup, quelles sont les différentes étapes pour élaborer une loi au sein du Parlement ?
Ah ! Bah, les grandes étapes, y a déjà, on va prendre... donc, il y a deux sources de la loi. Soit les parlementaires qui vont proposer, faire ce qu'on appelle une proposition de loi sur un sujet... soit le gouvernement qui veut faire une loi sur un sujet en particulier. Il y a plein de sujets dont on débat en ce moment, dans l'actualité. Vous avez certainement entendu parler des sujets liés à la fin de vie, des sujets liés également au droit du sol. Tout ça, ce sont des droits qui sont extrêmement importants et impactants pour les citoyens, pour la société française. Donc, c'est le législateur qui le fait. Et bah, du coup, le gouvernement fait un certain nombre de consultations. Alors le gouvernement, les ministères, des associations, peut parfois passer par des conventions citoyennes. C'est le cas notamment sur la fin de vie. Et puis, une fois qu'il a récolté un certain nombre d'idées, les ministères préparent le texte de loi. Ce texte de loi, il est soumis... à un certain nombre d'autorités publiques pour vérifier qu'il va bien respecter les principes qui sont au-dessus de la loi, et je citais tout à l'heure la Constitution et de grands textes internationaux. C'est notamment le cas du Conseil d'État. Quand je vous disais que le Conseil d'État avait ce rôle de conseil juridique du gouvernement, c'est notamment sur un projet de loi avant que ce projet ne soit adopté en Conseil des ministres. Et une fois que le Conseil des ministres a adopté le projet de loi, il va dans une des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est examiné par d'abord les députés ou les sénateurs. Ensuite, il va dans l'autre chambre. Et en fait, l'objectif, c'est que le projet de loi soit adopté dans exactement les mêmes termes, la même écriture, dans les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et une fois que le projet de loi est définitivement adopté par les deux chambres, eh bien, il y a la possibilité qu'il y ait l'examen par le Conseil constitutionnel pour bien vérifier que la loi telle qu'elle ressort du Parlement, elle est bien conforme à nos règles constitutionnelles qui sont donc au sommet de notre ordre juridique. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel ne va pas examiner toutes les lois. Elle ne le fait, le Conseil constitutionnel, pardon, n'examine les lois que si on lui demande de le faire, le président de la République, le président d'une des deux assemblées, 60 députés, 60 sénateurs.
Et pourquoi la séparation des pouvoirs, elle est importante au sein dans une démocratie ?
La séparation des pouvoirs, en fait, elle est fondamentale. Alors, c'est pas moi qui le dis, ça remonte au siècle des Lumières, au fondement des régimes démocratiques. Parce que le pouvoir de juger était dans les mêmes mains que le pouvoir de faire la loi et d'appliquer la loi, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'avantage d'être plusieurs pour délibérer et décider, on a le risque d'être dans un régime dictatorial, puisque tous les pouvoirs sont concentrés dans une même main et qu'il n'y a donc pas de possibilité d'influence d'un pouvoir sur l'autre, puisque tout est concentré soit dans les mains d'une seule personne, soit dans les mains de très peu de personnes, soit... Une tyrannie, soit une oligarchie, c'est très peu de personnes qui ont le pouvoir. Et donc le principe démocratique, c'est que les pouvoirs soient séparés et indépendants les uns des autres, ce qui n'empêche pas que, par exemple, dans notre régime de la Ve République, le pouvoir exécutif peut avoir une forme de levier sur le pouvoir législatif avec plusieurs... outils juridiques, par exemple, c'est le cas de la dissolution. Ça a été le cas l'année dernière, pour dire, ben, il me semble que la situation politique est nouée, et pour la dénouer, je suis président de la République, je vais la dénouer en dissolvant l'Assemblée nationale. Et à l'inverse, l'Assemblée nationale peut faire pression sur l'exécutif par le vote d'une motion de censure, ce qui a été le cas en fin d'année dernière.
On le disait en début d'émission, vous êtes maintenant coach professionnel. Qu'est-ce qu'une coach professionnelle ?
Alors, je ne suis pas coach sportif, et c'est la première chose que je dis en général lorsqu'on me demande quel est ton métier de coach professionnel. En fait, ce que je veux dire par coach professionnel, c'est coach en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes ou des équipes qui viennent me voir parce que soit elles ont envie de faire le même travail, mais d'y dépenser moins d'énergie en étant plus efficaces. Soit ces personnes-là ou ces équipes-là veulent modifier la façon dont elles travaillent, veulent changer de travail, veulent améliorer leurs relations internes lorsqu'il s'agit d'une équipe, et toutes seules, soit ces personnes, soit ces équipes n'y arrivent pas forcément. Donc moi, en fait, comme j'ai 30 ans d'expérience professionnelle dans le secteur public, que j'ai exercé plusieurs métiers, que j'ai travaillé au Conseil d'État, comme vous l'avez dit, à la ville de Paris, dans les institutions européennes, dans des ministères, que je me suis formée aussi à un certain nombre de sciences humaines. Ben voilà, j'ai des expériences à partager et je partage ces expériences bien volontiers avec les personnes qui viennent me voir, encore une fois, pour se sentir mieux dans leur métier, dans leur profession, dans leur job.
Et pourquoi cette reconversion ?
Bah pourquoi cette reconversion ? En fait, justement, je me dis que après 30 ans dans le secteur public, au sein du secteur public, à contribuer à faire en sorte que les services publics essaient de marcher le mieux possible et donc de les transformer aussi, d'aider à les transformer pour rendre le meilleur service possible, j'avais envie de ne plus être à l'intérieur, mais d'être à l'extérieur comme une personne ressource pour des dirigeants du secteur public. Alors après, je travaille aussi avec des chefs d'entreprise, mais je travaille quand même plutôt avec des personnes qui travaillent dans les administrations et dans le secteur public pour les aider, encore une fois, à y voir un petit peu plus clair. J'avais envie de faire ça. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'y prends beaucoup de plaisir et que, en fait, je me sens toujours autant liée avec mon engagement pour le service public.
Merci beaucoup Karine Soulé de nous avoir rencontrés et d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci et bravo.
Merci.
Merci. Merci.